votre journée de conférence. Demain, vous avez des ateliers. Donc, merci de votre écoute, d'être là depuis ce matin avec nous. De toute façon, les intervenants le méritent, alors vous avez intérêt à rester. Voilà. Donc, nous sommes très contents de recevoir Joël Lebaum qui a accepté tout de suite de venir chez nous. Je ne vous avais jamais entendu, j'ai entendu parler de vous. Donc, on m'a dit qu'il faut inviter Joël Lebaum. Je suis très contente de cette occasion de vous entendre. Donc, vous allez nous parler des enjeux éducatifs de l'histoire. C'est un titre étonnant, hein. Les enjeux éducatifs de l'histoire des solutions à problèmes techniques. Il va d'abord falloir nous expliquer ce titre. Donc, Monsieur Lebaum, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Cachan. Vous êtes auteur de École technique et travail manuel, Z édition. Je mettrai tout ça au tableau avant que vous l'ayez dans votre PowerPoint. Z édition de la Grave, l'éducation technologique édition ESF, enseigner la technologie au collège avec, en collaboration avec Jean-Louis Martinan aux éditions Hachette et de plusieurs ouvrages de jeunesse. Ça, c'est très bien aussi. Notamment, comment c'est fabriqué et méga expérience, méga activité chez Nathan. Vous menez vos recherches au sein de l'unité mixte de recherche, sciences techniques, éducation, formation que vous dirigez. Vos travaux sont consacrés à l'éducation scientifique et technologique des jeunes et sont nourris par vos contributions à la formation des enseignants, d'abord à l'École normale d'Orléans, puis à l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'Académie Orléans-Tours. Nous vous écoutons. Merci, monsieur.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et je vais essayer de... d'intervenir en dernier, sans doute après une journée bien remplie. Dans ce bref parcours de ma note nécrologique, effectivement, je ne suis pas un historien des sciences et des techniques, je suis un didacticien de l'éducation scientifique et technologique, et plus particulièrement, mon domaine de spécialité, c'est l'éducation technologique dans sa forme d'enseignement général, et plus particulièrement dans la scolarité obligatoire. Alors, peut-être pour expliquer le titre, « Histoire des solutions à un problème technique », c'est l'intitulé d'un point du programme actuel de technologie en troisième, qui avait été fixé en 1998, donc il y a 10 ans, et qui avait été donc élaboré pour intégrer cette question-là dans les programmes mêmes. Et je participais à l'époque au groupe d'experts d'élaboration de ces programmes. Alors, mon intervention, si vous voulez, est un peu décalée par rapport aux trois interventions précédentes, parce que c'est un point de vue de didacticien qui va être plutôt valorisé. Mais ça tombe bien parce que c'est en fin de journée, et donc j'ai considéré que ça avait une valeur de mise en discussion ou en tout cas d'une discussion ou d'une perspective provisoirement conclusive. Bien évidemment, je vais conserver le point de vue de l'histoire des techniques et des spécificités de ce point de vue technique que je souhaite développer, donc du point de vue de la question de ces enjeux éducatifs dans la scolarité obligatoire. Et cette question-là, la place et le rôle de l'histoire des sciences et des techniques, d'ailleurs, est quelque chose quand même qui a été abordé depuis au moins 30 ans et pour lesquels il y a eu un certain nombre de résultats ou de développements. Généralement, d'ailleurs, il s'agit des discours de promotion qui considèrent ou qui révèlent des conceptions assez précises des techniques considérées comme des sciences appliquées, c'est-à-dire que les techniques seraient des applications des sciences, et donc l'histoire des sciences, avec une perspective inclusive, tend à intégrer l'histoire des techniques. Ce n'est pas tout à fait le point de vue que je défendrai, vous vous en apercevrez, pour discuter la question de la rationalité technique qui est en présence. Mais il y a quelques enjeux sociaux qu'a très bien discuté Michel Letay dans un ouvrage sur les sciences appliquées et sur le Châtelier qui considérait que dans les années 30 que la démarche expérimentale était celle des techniciens, ce qui est profondément discutable. Cette conception, donc, avec les enjeux sociaux qu'elle porte sont importantes. Alors, très généralement, l'histoire des sciences et des techniques, ou la partie, je peux m'excuser, la partie historique de ces domaines de sciences et de techniques sont présentés comme des documentaires qui illustrent les progrès et donc qui tendent à valoriser un discours axiologique sur les progrès de la science, sur la valorisation également des scientifiques, et donc qui est un discours non neutre, avec les thèmes des humanités. Nicole Lulin a très bien montré l'émergence des humanités françaises et des humanités scientifiques, et plus récemment, dans les années 60, la question des humanités techniques qui a été fondatrice, en quelque sorte, ou qui ont été fondatrices de la constitution de l'enseignement technologique à partir de 1960. Mais ce discours de revendication est un discours également qui se bat contre plusieurs points, notamment l'obscurantisme, je pense que c'était patent dans les interventions précédentes, mais également contre la hiérarchie des disciplines, et en particulier les humanités classiques, qui réapparaissent dans les discours d'une façon régulière. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'enjeux strictement sociaux qui apparaissent dans les histoires ou l'histoire des sciences et des techniques à l'école. La forme, je le disais, privilégie des présentations qui sont souvent complémentaires dans les manuels, des documentaires comme dans la tradition, en vérité, des leçons de choses, puisque l'histoire des sciences n'est pas nouvelle. Dans les ouvrages des écoles primaires supérieures consacrés aux leçons de choses, il y avait également ces pages connexes ou annexes ou complémentaires dans lesquelles on racontait des histoires qui valorisaient les progrès. Très souvent, ce sont des activités qui privilégient la lecture, l'activité de lecture ou de recherche documentaire qui se traduit aujourd'hui par des recherches sur Internet, mais qui sont en quelque sorte des activités de lecture et qui ne sont pas forcément des activités ni d'historiens ni de scientifiques. Il y a bien évidemment des progrès et des innovations majeures. En comparant cet exemple-là, qui est un document dans un ouvrage publié en 1977, ça n'apparaît pas. Les références sont en bas. Ça, c'est l'incompatibilité Mac-PC qui est à l'origine de cela. Donc, c'est un ouvrage de 1977, donc avec une forme particulière, une illustration, un texte, et on voit dans des ouvrages beaucoup plus récents une activité documentaire qui privilégie en vérité la tâche scientifique qui est associée à la redécouverte de la pile, et avec une interrogation systématique sur l'approche, la découverte et l'invention. Mais ce que je pointe en même temps, c'est qu'il y a des silences. Il y a un certain nombre de silences répétitifs, en particulier, on le voyait sur l'image précédente, on voit bien les piles modernes, mais rien n'est dit sur la question de l'industrialisation. Rien n'est dit sur les usages sociaux de ces objets ou de ces nouveautés, et rien n'est dit sur les besoins qui fondent leur existence. Donc c'est une histoire scientifique qui s'enracine en fait sur la découverte et qui valorise un phénomène particulier et qui privilégie donc un discours particulier. De même, ici, la pile Le Clancher, par exemple, ou les autres piles, les mêmes silences demeurent, c'est-à-dire que la question de l'industrialisation, les questions de diffusion ne sont même pas évoquées, puisqu'il s'agit en fait de comprendre le comment ça marche sans aller au-delà. Donc c'est en ce sens que je souhaite discuter les enjeux éducatifs de ces activités ou de ces propositions pour l'enseignement. Et j'ai coutume de discuter, en fait, la pertinence des choix d'enseignement en interrogeant d'une façon complémentaire à la fois les tâches, c'est-à-dire que font les élèves dans les activités qui sont proposées, quels sont les apprentissages qui sont ou les compétences, devrait-on dire aujourd'hui, qui sont en jeu. Quelles sont les perspectives éducatives qui sont en jeu, et en quoi ça doit transformer l'élève d'avoir ce rapport ou cette activité liée à l'analyse rétrospective des sciences ou des techniques. J'interroge également les visées, donc ce sont les perspectives, et la question des références, c'est-à-dire à quelle image de la réalité les tâches renvoient-elles. Dans une certaine mesure, ce que j'interroge, ce sont les relations de cohérence entre ces tâches, ces visées et ces références. On pourrait dire, qu'apprend l'élève et à quoi joue-t-il ? Joue-t-il à l'historien ? Joue-t-il au technologue ? Joue-t-il au scientifique ? Joue-t-il au collectionneur ? Joue-t-il à l'antiquaire ? Etc. J'interroge en même temps le mode pédagogique, donc là sur un registre essentiellement pédagogique, c'est-à-dire comment le contenu est-il proposé ? S'agit-il d'une présentation ? On voit bien que en termes de lecture, il s'agit d'une présentation de faits ou d'épisodes. S'agit-il d'investigation ? La deuxième proposition était dans l'ordre de l'investigation. S'agit-il, pour ce qui relève des techniques, d'une approche plus réalisatrice avec les réinventions, en quelque sorte, ou les redécouvertes des techniques ou des objets anciens ? J'interroge également le registre. À quel niveau se situe-t-on ? S'agit-il essentiellement d'une description ou bien d'une visée explicative ? Dans les deux documents présentés en tant qu'exemple, on avait un document centré exclusivement sur la description et l'autre sur l'explication. Et enfin, la troisième question, c'est ce que je désigne par l'inscription curriculaire, c'est-à-dire comment ces contenus d'histoire des sciences et des techniques s'inscrivent-ils dans le programme, dans le curriculum, puisque je préfère prendre ce mot-là, c'est-à-dire dans les 4 années, par exemple, de scolarité du collège ou les 3 années du lycée, comment ces contenus-là interviennent-ils ? Quelle est leur place et quelle est leur fonction ? Alors, ces questions-là, pour ce qui est de l'ordre de l'histoire des techniques, n'est pas indépendante des conceptions même de l'histoire des techniques. Il y a au moins 2 conceptions majeures ou dominantes de l'histoire des techniques. La première est l'histoire décontextualisée et qui prend appui généralement sur les histoires ou les évolutions des objets. Ici, il s'agit, et c'est une source importante, ce sont les brevets. Les brevets sont des documents techniques qui permettent de faire l'histoire des techniques. Ce sont les brevets d'un objet que vous connaissez, puisqu'il s'agit des trombones, et qui apparaissent en 1899, il y a une série de brevets, il y en a un autre en 1934, mais il y en a d'autres. Et à partir de ces brevets, il est possible de proposer des activités aux enfants ou aux élèves pour qu'ils perçoivent et qu'ils identifient ces évolutions. Cet objet a été inventé et diffusé pour répondre au problème d'assemblage de feuilles ou de billets sans marquer les pages. Donc c'est le besoin initial et la solution technique de ce problème-là est cette ribambelle d'objets. Donc on voit bien que c'est une histoire qui peut être anecdotique, et une histoire particulièrement partielle si elle s'arrête à cette description des brevets et des solutions techniques. Il est plus important de passer aux conditions techniques d'existence même de cet objet accessoire et notamment les conditions des machines pour permettre l'industrialisation et la production sérielle de ces objets. Et là, on est en train de faire une histoire complètement différente, qui n'est plus une histoire de l'objet, mais une histoire des techniques particulières qui vont renvoyer à une histoire de la métallurgie et une histoire de la tréfilerie. Ce que je voulais montrer par cet exemple, c'est qu'il est très possible, parfois, de faire des histoires partielles ou des histoires anecdotiques, voire des histoires complètement incomplètes, puisque ni la question des procédés, ni la question des matériaux n'est évoquée. On ne peut pas faire l'histoire de la machine à vapeur sans avoir à l'esprit les conditions techniques de réalisation des grands alésages. Parce qu'il y avait quand même des jeux excessivement importants dans cette machine, puisqu'il était, enfin, des jeux de l'ordre d'un centimètre. Hein. Donc il y a quand même du génie humain derrière, parce que ça marche dans des conditions de réalisation différentes. Alors, c'est exactement la même chose sur les fusils ou les canons. Les conditions techniques de réalisation sont associées fondamentalement au produit. Et dans cette perspective, donc, d'une histoire un peu plus élargie, on voit bien que l'enjeu n'est pas de cristalliser l'attention des élèves sur des points de détail, mais sur la constitution de repères leur permettant de mieux comprendre le monde et de mieux saisir les évolutions générales. Et en ce sens, il est important alors de mettre en relation ces trombones avec d'autres produits de la même période, qui sont en particulier tous les instruments ou tous les objets de tréfilerie qui se développent dans la dernière vingtaine d'années du XIXe siècle et qui, pour les historiens des techniques, révèlent en fait l'épuisement la métallurgie puisque les objets vont être réalisés pour une consommation de masse. Une consommation de masse qui a des besoins, mais cette consommation de masse est en fait la fin, en quelque sorte, d'un règne où est une étape très importante dans la métallurgie parce que ça signale, je dirais, un état de maîtrise des procédés, des matériaux, de l'énergie, des contrôles, des machines qui permettent, je dirais, de faire n'importe quoi. Mais c'est important de bien localiser que ces objets-là, ou ce trombone, n'est pas du même ensemble que les rails, voire la tour Eiffel, ou toutes les poutres métalliques assemblées par rivetage d'une période précédente, puisqu'il s'agit là non plus de rivetage, la tréfilerie permettant la réalisation de vis d'une façon automatique, d'une façon extrêmement rapide, chose qui était impossible pour la tour Eiffel, parce que vous savez bien que ce sont des rivets qui l'assemblent, après la thèse brillante de Bruno Jacomi sur les rifteurs de la tour Eiffel, qui était magistralement remarquée. L'autre conception, ou dans le prolongement de cette conception, donc vous voyez là une conception d'une histoire des techniques contextualisée aux techniques, mais l'autre tendance, c'est le rapport entre objet et milieu, ou histoire et milieu, dans une histoire sociale et économique, pour comprendre non plus tellement les techniques, mais la question de la diffusion des techniques. L'histoire de la diffusion des techniques est essentiellement importante pour se poser la question de pourquoi, à un certain moment, des innovations ou des inventions se diffusent-elles, et pourquoi, à d'autres, elles restent des inventions géniales et délirantes, le cas échéant, mais sans portée ou sans développement. Et dans ce cas-là, donc, il s'agit davantage d'une histoire de la production industrielle de masse, et avec la question fortement présente de la commercialisation et de la diffusion. C'est-à-dire, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la technique. La technique, ce n'est pas essentiellement la production. La technique ne peut être examinée sans l'ouverture de la question de la commercialisation ou de sa diffusion. Dans un remarquable travail sur l'histoire de la machine à laver, la spécialiste en France de la machine à laver montre bien les rapports entre le développement et la diffusion de cette technique, en particulier grâce à la vente à crédit en 1936 et le crédit à la consommation en 1956, qui va générer le système des objets, d'ailleurs présenté par Baudrillard à peu près à la même période. mais en même temps, il y a, au-delà du système d'achat, il y a le système de vente et le système de communication commerciale. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il s'agit d'une histoire beaucoup plus large qu'une histoire essentiellement réduite sur le trombone ou l'appareil photo. À cet égard, une histoire de l'appareil photo ne peut pas se réduire du point de vue technique à l'examen du passage du sténopé, pour dire les choses un peu simplement, à l'histoire d'une optique ou d'un flash intégré, mais c'est surtout l'histoire de l'évolution de la commercialisation, puisque ce qui est en jeu dans l'instamatique, le génie humain n'est pas dans la réalisation de l'instamatique, il est surtout dans la commercialisation des pellicules à prix réduit, à prix haut, ce qui justifie la diffusion de cet appareil-là. Vous connaissez cette technique de commercialisation avec les imprimantes à jet d'encre, qui sont un moyen, c'est une technique, c'est une histoire technique ou une histoire d'une technique commerciale qui sont intimement associées à la profusion et à la diffusion des produits. Dans un ouvrage, ah ben si là vous voyez le bas, dans un ouvrage du Centre de création industrielle, qui est ancien maintenant, et qui est centré sur l'objet industriel, il y a cette proposition qui me semble extrêmement importante pour penser les activités scolaires, c'est celle qui permet de distinguer ou de rassembler un ensemble de questionnements liés à la fois à la conception, à la production, à la distribution et à la consommation. Et j'inscris donc pleinement dans la perspective que je soutiens cette idée de repère suffisamment large pour qu'on saisisse les conditions de diffusion et d'existence des objets et des techniques qui sont présentes à certaines époques. Mais on voit bien que là, il s'agit davantage d'une histoire culturelle des techniques, une histoire culturelle que l'on peut raccorder également à l'esprit du temps. Il est important de à la fois lier des événements d'ordre technique et des faits un peu plus qui peuvent paraître désuets, mais je crois que pour saisir les années 60, il faut bien avoir à l'esprit et à l'oreille les poinçonneurs du lilas, puisque l'automation, comme on le disait à l'époque, est une trace ou à sa trace dans la culture populaire ou dans la culture d'élite par ces marques symboliques que sont les œuvres. J'ai pris ici un poème, mais à chaque fois, Marcel Duchamp marque son époque également par rapport aux techniques, au même titre qu'un certain nombre d'artistes qui donnent à voir le monde technique d'une autre façon. Dans cette perspective, il y a un certain nombre de concepts qui sont importants pour comprendre. Et je pense que ce sont ces concepts qui sont importants pour les élèves dans leur éducation en tant que repère pour lire le monde. Alors le premier qui a été installé par Bertrand Gilles, c'est le concept de système technique. Le concept de système technique permet très précisément d'expliquer pourquoi l'éolipile des mécaniciens grecs n'a jamais pu devenir une machine à vapeur. Parce que le système technique lui-même ne le permettait pas. Ce que montre d'une façon magistrale Bertrand Gilles dans son orientation, c'est les concordances qui s'opèrent et qui rendent viable l'ensemble du système technique entre la machine à vapeur, donc les machines-outils, les matériaux, enfin le chauffage, le combustible, pardon, les matériaux, mais également les transports, à la fois maritimes et terrestres, et qui s'accompagnent de constructions et qui ont d'autres implications dans d'autres secteurs, en particulier à l'époque le textile. Cette idée de système technique est essentiellement importante parce qu'elle permet non pas de voir les techniques d'une façon pointilliste et décousue, mais de repérer les concordances et les cohérences qui fondent des organisations. dans cet esprit-là, il me semble qu'il y a également une autre histoire qui accompagne ces systèmes, l'existence même des techniques, qui n'est plus une histoire des techniques dans sa composante matérielle, mais dans sa composante sociale, en particulier avec la question de la spécialisation des rôles et de la division du travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un point de vue technique sur l'histoire des techniques sans avoir à l'esprit la division du travail et l'organisation même, l'organisation sociale, économique, voire politique, qui donne existence à ces techniques. Et il faudrait même aller, c'est ce qu'avait proposé Yves Deforge, il faudrait même aller jusqu'à la formation technique qui accompagne, je dirais, ces développements. Dans les années 30, par exemple, il y avait ce que nous désignons, enfin, ce, non, le « nous » ne convient pas, ce qui était désigné par le solfège industriel. Le solfège industriel est la gamme des professions avec une hiérarchie bien installée et des compétences particulières. Eh bien, cette formation dans l'enseignement technique au solfège industriel, donc avec l'organisation sociale qui l'accompagne, est une explication complémentaire à l'existence même du début de la production de masse et du taylorisme. Dans les années 60, la même question est à poser et à observer, puisque la formation, l'enseignement technique, avec la constitution progressive des IUT, par exemple, et des écoles d'ingénieurs, mais également le développement ou l'ouverture des CET, donne magistralement, avec les organisations des plans quadriennaux ou quinquennaux pardon, de l'époque, l'organisation sociale qui accompagne les techniques de l'époque. Aujourd'hui, la question des compétences, la question la norme ISO qui va bientôt fixer portefeuille de compétences de chacun d'entre nous, préfigure en quelque sorte l'organisation sociale qui accompagne le travail et qui est la forme sociale donc des techniques. Ce que je mets en évidence là, c'est qu'il ne s'agit pas de regarder, pour moi en tout cas, les progrès techniques ou les évolutions techniques, mais d'essayer de comprendre les conditions et les implications dans tous les domaines de ces évolutions. Dans cet ordre d'esprit, il y a un autre concept qui me paraît important, c'est le concept d'acceptabilité qui permet d'expliquer l'existence des techniques et des objets. Alors l'acceptabilité se décline selon une acceptabilité scientifique. Il faut bien évidemment que les propositions soient conformes aux lois scientifiques. Cette question est actuellement posée d'une façon magistrale par les nanotechnologies, car les comportements des atomes à l'échelle individuelle ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils sont assemblés. L'acceptabilité technique, c'est-à-dire il faut que ce soit possible à faire et à réaliser. L'acceptabilité industrielle, en termes de production à grande échelle. L'acceptabilité économique, on le voit tous les jours, la question de la substitution des sacs en polyéthylène ou en PVC par des sacs en macropolymère élaborés à partir de la fécule de pommes de terre se heurte à un problème d'acceptabilité économique pour l'instant. Et bien sûr, l'acceptabilité sociale qui conditionne l'existence même de ces produits. Je fais référence à Bruno Jacomi qui se posait la question l'existence des volants dans les voitures, puisqu'il considérait que l'organe le plus fiable serait un joystick. Pour l'instant, ben oui, mais avec une génération de jeunes qui conduit des voitures à l'écran avec des joysticks, on pourrait très bien imaginer conduire la voiture comme cela. Je pense que nous y arriverons dans quelques années. Peut-être pas maintenant, parce que l'acceptabilité sociale n'y est pas. Il y a 10 ans, lorsqu'il a étudié la question, il était inconcevable que les voitures n'aient pas de clé. Aujourd'hui, il n'y a plus de clé, il n'y a plus de frein à main. Et... Donc, toutes ces inventions, toutes ces évolutions implique cette acceptabilité sociale. Deforge proposait un peu cette proposition, ce regard multifacette des objets dans son milieu. Alors, je ne reprends pas intégralement ces propositions, mais ce que je relève dans cette vue, c'est essentiellement d'avoir des points de vue différents et complémentaires, l'objet étant une trace d'un système de production, d'un système de consommation, d'un système d'objets, d'un système d'utilisation dans un contexte très particulier. Et c'est cette idée de système ou de vision systémique ou pluriréférentielle des objets qui traverse aussi la proposition de Thierry Godin, un ouvrage remarquable sur les métamorphoses du futur, qui propose également des repères qui me semblent importants pour des jeunes, qui sont des grands repères des systèmes techniques au fil du temps. Et le système technique proposé par Thierry Godin au Moyen-Âge, il construit en fait ces systèmes à partir de la question de la structuration du temps, des matériaux, de l'énergie et la relation avec le vivant. Et il définit en quelque sorte un paradigme à la fois épistémologique et social qui fait fonctionner l'époque. Donc les horloges, le fer, les moulins, la sélection des semences et la terre comme organisation sociale. Le système technique de la révolution industrielle est alors centré non plus sur l'heure du clocher, mais sur le chronomètre et le taylorisme. Je renvoie à l'histoire du temps de Attali. Pas besoin de lire son nouveau rapport pour le regarder, sur la question de la seconde, de la minute qui transforme l'époque et qui justifie à la fois le découpage des fuseaux horaires, mais également le train ou les chemins de fer et l'organisation du taylorisme avec des matériaux, l'acier, le ciment, je pense qu'on aurait dû rajouter le verre, l'énergie, la vapeur et l'explosion, et puis le mouvement hygiénique qui a été largement abordé en filigrane de la première conférence de ce matin, avec le capital qui devient l'organisateur de la vie technique. Et enfin, le système contemporain, le système contemporain qui est, à mon sens, dans ses dernières phases aujourd'hui, avec l'échelle de la milliseconde, la question des matériaux de synthèse ou des matériaux artificiels, l'énergie électrique, les biotechnologies, et avec le cognitif ou le mental qui devient en fait non plus, qui devient le mode de répartition du fonctionnement social et technique. Donc vous voyez que j'ai un discours à la fois historique et sociologique des techniques, parce que je pense que c'est le seul moyen de comprendre, dans une perspective d'éducation générale ou d'enseignement général, les techniques et leur place. De la même façon, un certain nombre de propositions sont disponibles pour examiner les rapports entre celui qui commande l'objet ou la chose et celui qui fabrique, avec ses relations de service qui d'abord était à la commande du dominant sur le producteur, puis une relation négociée de service dans la production artisanale ou de série, puis une production de masse avec une offre. Et là, on a une rupture, puisqu'on a une offre des produits, contrairement aux époques précédentes, et puis une relation interactive de service avec la perspective d'une démocratie en quelque sorte participative et qui est en jeu notamment dans les préoccupations contemporaines. Donc il y a un certain nombre d'outils disponibles qui me semblent importants comme outils pour penser les activités scolaires dans l'histoire des techniques. Mais ce que tout mon discours là est fortement imprégné par l'idée de la composante ou le caractère technique donc la technicité qui est en filigrane de l'ensemble des réalisations techniques. Combarnous, dans l'ouvrage qui est mentionné en bas de page, Les techniques et la technicité, suggère trois composantes qui permettent de définir la technicité. Une part de rationalité technique, une part liée aux engins, au sens d'ingenium ou bien d'ingénieur, et une organisation sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technicité s'il n'y a pas de rationalité technique, s'il n'y a pas d'engin et s'il n'y a pas de rôle spécialisé. La rationalité technique est souvent contestée. Historiquement, la rationalité technique a toujours été confondue avec une ruse, la métisse des Grecs. Et d'ailleurs, ça rejoint votre question sur l'animalité, puisque la ruse est un caractère animal, alors que la rationalité est un caractère humain. Et je pense que la culture s'oppose à la nature, et par hypothèse, la culture ne peut que s'éloigner de la nature et donc des animaux. Et le réflexe de vos élèves, à mon sens, est tout à fait légitime et humain. Mais c'est une autre question. Donc, ces trois composantes, la rationalité technique, les engins et les rôles spécialisés, permettent du coup d'interroger les objets et les productions techniques. Quelle est la rationalité qui est en jeu? Quels sont les engins qui sont sollicités? Et quels sont les rôles qui sont spécialisés? Et en ce sens, il y a un point déterminant dans l'évolution de la pensée technique et de la rationalité technique, c'est l'idée de concrétisation. C'est l'idée de passer d'objets abstraits à des objets concrets. Et c'est proposé par Simondon, dans un philosophe, mais spécialiste des techniques, sur la question de l'évolution. Et on va rejoindre la conférence précédente. Le passage, en quelque sorte, d'un schéma technologique à un objet intégré. Et d'un point de vue épistémologique, parce que là, je suis vraiment dans un point de vue épistémologique de la technique, il y a des ruptures fondamentales dans la pensée technique entre une pensée juxtaposée, c'est-à-dire qui procède par juxtaposition d'organes dans un ensemble, et une intégration des fonctions. Je crois que c'est là la démonstration de l'évolution de la rationalité technique qui apparaît dans tous les objets et dans toutes les techniques, puisque au stade ultime, l'intégration va jusqu'à l'intégration à l'humain, comme les étiquettes RFID qui sont injectées sous la peau pour être sûr de garder le repérage de la personne sur un GPS. Ou bien des téléphones portables qui sont incrustés dans les dents. Ça fait partie du délire des inventeurs, mais c'est quand même des choses qui existent et qui suivent en quelque sorte un espèce de déterminisme technique d'intégration maximale. Or, ce qui est en jeu dans une perspective éducative, c'est de passer, avec les élèves en particulier d'école et de collège, de passer dans l'approche de réalisation à des opérations qui se font essentiellement par juxtaposition d'organes le plus souvent, vers une pensée intégratrice de fonctions et dont les organes sont les solutions. L'autre exemple que vous connaissez, c'est la montre Swatch, où je prends cet exemple-là, qui est un objet particulièrement significatif de cette intégration technique, puisque la révolution qu'apporte la montre Swatch dans les années 80, c'est d'une part, ça n'est plus une montre. C'est un accessoire qui donne l'heure, selon la définition de la firme, et donc on a une intégration à l'individu dans une perspective de marketing, et là ce sont les techniques marketing et commerciales qui sont valorisées. La deuxième révolution de la montre Swatch dans le domaine de l'horlogerie, c'est la question du boîtier en matière plastique qui devient la structure autoportante du mécanisme. Et là, on voit une révolution très claire de la pensée parce que jusqu'alors, on mettait un mécanisme dans un boîtier. Or, l'idée même de composer le boîtier comme boîtier et support du mécanisme qui peut du coup être assemblé par des robots en assemblant les pièces, signale d'une façon déterminante les progrès du génie humain, du génie pris au sens d'engin, ingénieur, etc. Hein, c'est pas celui de la République. Donc, ce sont ces quelques exemples qui montrent ce processus de concrétisation avec l'autre idée de Simondon, qui est celle d'individuation, c'est-à-dire une constitution d'individus techniques, et avec une image qu'on pourrait, ou une analogie avec le biologique qui traverse beaucoup d'histoire des techniques, ou de pensée d'histoire des techniques, l'individu technique étant autonome et presque reproductible. Dans les perspectives de nanotechnologie, cette pensée-là est très développée, puisqu'on imagine actuellement que certains robots ou micro-robots pourraient eux-mêmes s'auto-générer. Hein ? Donc on voit un certain nombre d'éléments de la pensée qui, dans cette intégration, visent cette perspective-là. Et en filigrane de cette perspective, ce qui est fondamental, c'est la question de l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle permettant de comparer des objets, non pas du point de vue de leur forme ou des organes, mais du point de vue de leur fonction. Et je crois qu'un des travaux ou un des progrès des élèves que l'on peut viser dans une perspective d'intégration de cette histoire dans les contenus eux-mêmes, et non pas juxtaposé à un programme comme une forme de supplément d'âme, c'est de permettre cette construction d'un outil relativement simple qui permet d'analyser les objets du point de vue essentiellement fonctionnel. Et la comparaison du coup de ces quatre objets, c'est essentiellement la détermination ou le repérage des fonctions, saisir une grandeur physique, la température, traiter cette information et l'afficher, et avec un besoin d'énergie. Et quelle que soit la solution technique abordée, quelle que soit la proposition contemporaine, ancienne ou future, nous sommes toujours avec cette modélisation fonctionnelle qui permet de saisir les ruptures et les continuités. Y est associée la question des principes, l'autre concept déterminant, celle des principes à la fois scientifiques et ou principes physiques et techniques, qui permettent de comparer ces solutions techniques. J'ai pris l'exemple ici de l'ascenseur avec des solutions différentes, le treuil bien connu, le pignon crémaillère, le vérin hydraulique. Je vous rappelle que les premiers ascenseurs étaient constitués à partir de vérins hydrauliques. Et on voit bien qu'il y a des principes différents. Ces principes peuvent coexister. Mais ce qui est important dans une perspective historique, c'est de comprendre pourquoi le vérin hydraulique, au début du XXe siècle, a été supprimé. Puisque la raison essentielle, c'est lié à des questions de coût, puisque c'était installé dans les immeubles parisiens, et ça fonctionnait avec de l'eau. Et vous imaginez qu'il fallait des quantités impressionnantes d'eau, et la municipalité ou la compagnie des eaux a augmenté ses tarifs compte tenu de la consommation, ce qui a imposé du coup une autre solution technique, qui a été ou bien la machine à vapeur, puis les machines électriques d'un système de treuil. Mais aujourd'hui encore, on assiste ou on peut voir ces différents principes. Ces principes permettent également d'envisager d'autres solutions. Vous savez qu'en matière d'ascenseur, les dernières propositions sont de faire réaliser des nacelles autonomes, c'est-à-dire mues par un moteur, et qui sont susceptibles, dans des très grands immeubles, de voyager d'une façon autonome dans une même travée, et le cas échéant, de se déplacer et d'aller dans d'autres travées. Donc, ce qui est excessivement important sur cette évolution, au-delà du principe, c'est de ne plus penser la montée des personnes d'une façon individuelle avec un seul objet, mais c'est de penser en réseau. Et on voit donc cette idée de réseau qui renvoie à l'idée d'intégration maximale. L'autre idée forte qui a été développée sur la question de l'histoire des solutions techniques, ou l'histoire des solutions à des problèmes techniques, c'est de mettre en évidence les lignées dans un ouvrage que je pense les biologistes vous connaissez, Technologie et génétique de l'objet industriel. Je me suis trompé, c'est de l'objet industriel. Les travaux, en particulier de Simondon, mais également de Deforges, ont essayé de déterminer, de catégoriser les objets techniques selon leurs principes. Et on voit ici, c'est un exemple relativement connu, la lignée qui provient, la lignée du haut qui provient en fait de la baratte à beurre, et puis la lignée inférieure qui vient d'un système de tambour et qui est réutilisée. L'intérêt n'est pas tant de dans cette catégorisation ou dans cette constitution de famille, mais c'est plutôt pour voir, le cas échéant, l'ensemble des solutions techniques disponibles et éventuellement la possibilité de réutilisation. À l'Université de technologie de Compiègne, par exemple, il y a des enseignements qui travaillent l'histoire des techniques ou l'histoire des solutions techniques afin pour que les jeunes ingénieurs aient un capital de solutions techniques ou une bibliothèque de solutions techniques très forte, leur permettant d'imaginer des solutions. À titre anecdotique, hein, vous savez que dans les années 1900, une question fondamentale a été comment fait-on les roues des voitures ? Fait-on des roues souples grâce à des pneumatiques ou fait-on des roues souples grâce à des rayons élastiques ? Et ça s'est réglé sur un Paris-Nice 1906 où la roue à pneus s'est avérée la plus performante puisque pour une fois, il n'y avait pas eu de crevaison mortelle. Donc, on voit bien un certain nombre de choix techniques, mais cette roue élastique qui a été abandonnée en France et en Europe a été reprise pour le LEM sur les vaisseaux spatiaux dans des conditions impossibles ou dans des conditions particulières. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on voit bien un des enjeux majeurs de ces approches historiques, c'est cette capitalisation du patrimoine technique dans les solutions disponibles. Et je rappelle qu'un certain nombre de savants ont été d'ailleurs employés dans les instituts de brevets, je pense à Einstein, je pense également à celui, le russe qui a inventé, mais j'ai oublié son nom, une méthodologie de conception technique sur les systèmes simples, qui permettent d'avoir une bibliothèque de données arrivant à des solutions extrêmement simples. Et enfin, je pense que ce qui est, de ce point de vue épistémologique, très important, c'est d'identifier que le projet est l'essence même des techniques. Dans l'histoire des techniques, que ce soit la volonté de Vauban de lutter contre l'ennemi, c'est bien de détourner, de trouver des solutions pour résister en quelque sorte à la difficulté de la nature. Et j'ai pris comme exemple ce mémoire de Prony qui a souhaité trouver un système pour monter une barrique d'un puits tout en maintenant la rotation du système dans le même sens. Et en quelque sorte, il a inventé un système d'embrayage ou de débrayage qui est d'ailleurs encore utilisé dans les boîtes de vitesse aujourd'hui. Mais ce que je souhaitais montrer par cette vue, au-delà de l'analyse, je dirais, de la solution technique, c'est que le projet est à l'origine même des techniques et des solutions techniques et que c'est ça qui est fondamentalement en jeu. Je peux donc presque répondre à la question des fonctions de l'histoire des techniques et l'histoire des solutions à un problème technique. Je pense que dans les établissements, vous les connaissez. Alors, on a tout un tas d'arguments pour légitimer ça. Le premier argument est d'ordre épistémologique, c'est-à-dire, et c'était flagrant dans les interventions de ce matin ou d'aujourd'hui, c'était de repérer dans l'histoire de la pensée, scientifique ou technique, les obstacles à l'apprentissage. C'est également ce que je souligne en disant les oppositions ou les évolutions entre une pensée juxtaposée ou juxtapositrice et une pensée intégratrice. Ça me paraît l'élément fort d'un argumentaire. Le deuxième argument que l'on peut évoquer, c'est essentiellement du registre pédagogique. très souvent, on légitime l'histoire des sciences et, le cas échéant, des techniques dans l'enseignement comme un carrefour, comme une possibilité de travail collectif, et les exemples sont nombreux, entre l'association d'un enseignant de mathématiques et de physique sur l'histoire de l'instrumentation ou de la mesure, et dans tous les dispositifs qui sont éventuellement proposés au gré des évolutions, que ce soit les itinéraires de découverte, les TPE, les TIPE. Mais du coup, je crois que cette approche pédagogique qui légitime les activités liées aux sciences, à l'histoire des sciences et des techniques de cette façon-là, les met sur la touche, elle les sort en quelque sorte des enseignements ordinaires et des enseignements sous la responsabilité des spécialistes de physique, de biologie, de chimie ou de génie technique. Enfin, je voulais quand même évoquer donc la question autour de ces enjeux éducatifs. Je pense que le point de vue que je défends, c'est celui du repérage de la technicité à partir d'une analyse de séries d'objets ou de collections d'objets qui peuvent être des moyens de repérage à la fois de la technicité et, le cas échéant, de compréhension d'une datation à reconstruire. Que l'engin ou que l'objet soit portatif ou qu'il soit posé d'une façon religieuse signifie que les solutions techniques sont différentes et qu'elles représentent des évolutions majeures. Dans cette perspective, je voulais également avoir un point de vue un peu plus critique sur les limites et les dérives. J'ai trouvé cette image... j'aime bien le catalogue des objets introuvables de Karl Mann, et c'est digne de ces objets-là. Karl Mann ? Ah, c'est merveilleux. Je voulais mettre en évidence l'espèce de dégénération que l'histoire des sciences et des techniques, ou l'histoire des techniques en tout cas, est susceptible de ne pas contrôler en transformant l'histoire en historiette. La première dérive que je considère comme dérive, c'est la réalisation par les enfants de frises chronologiques, où il s'agit essentiellement d'un travail de repérage, de datation, mais absolument décontextualisé, et donc qui n'a qu'une visée au mieux descriptive, mais qui n'envisage absolument pas les concordances, les cohérences et les explications éventuelles ces histoires. Il paraît quand même délicat de faire une histoire de la bicyclette sans avoir une quantification très précise du nombre d'exemplaires de ces objets et de quels en sont les utilisateurs. Là, c'est un problème technique, donc l'histoire d'une solution à ce problème technique, ça je ne pourrais pas... Il y a un certain nombre de propositions actuellement, puisque les nouvelles propositions de technologie au collège proposent l'évolution, l'intitulé c'est l'évolution des objets techniques. Et les propositions qui sont les plus diffusées sont en fait le repérage essentiel de la date, du nom de l'inventeur et la description. Et en quelque sorte, j'ai l'impression que je retrouve les dérives largement critiquées par les didacticiens des sciences qui se sont alarmés depuis 30 ans sur cette fausse histoire des sciences et que l'on retrouve dans ces improvisations de l'histoire des techniques. Une dérive également est de prendre les objets anciens comme prétexte à des leçons techniques. Ici, il s'agit du freinage d'une bicyclette ancienne qui n'est pas examinée du point de vue historique, mais essentiellement comme support pour la constitution ou l'écriture d'une chaîne cinématique. Et donc, il y a un enjeu délicat, parce que, du coup, l'objet historique n'est pas pris en tant qu'objet historique, mais en tant que schéma technologique d'une chaîne cinématique. Donc, les décisions programmatiques, à mon sens, doivent être vraiment questionnées sur la question de l'échelle. Comment penser la question du transport aérien sans avoir une perspective à la fois sur les normes et sur les contrôles aériens. Et il y a une fâcheuse tendance parfois à considérer que quand les enfants sont petits ou quand les élèves sont jeunes, il faut travailler sur des petits objets. Et puis quand ils sont plus grands, on va travailler sur des systèmes. Or, ça, c'est une question qui me paraît fortement discutable parce que si l'on veut travailler à l'échelle d'aujourd'hui ou à l'échelle contemporaine, il me semble indéniable et irrémédiable de devoir travailler à ces échelles-là. L'évolution des systèmes aériens, de la norme, des dispositions me paraissent des supports tout à fait pertinents pour les perspectives que j'ai énoncées. La question qui se pose du point de vue pédagogique, c'est celle des sources. Et on doit bien dire aujourd'hui qu'une des difficultés majeures pour l'intégration de ces activités dans les enseignements, c'est celle des sources accessibles. Il est excessivement difficile de trouver, par exemple, des brevets sur lesquels on peut faire travailler des élèves, ou des documents sur, par exemple, les structures des ascenseurs, chez Otis Asinter ou ailleurs, c'est-à-dire des documents sources qui permettraient de faire des activités authentiques d'historiens et de technologues simultanément. Mais je crois également que la question est posée sur les secteurs techniques qui sont à développer. Jusqu'à présent, dans l'éducation technologique, ce qui est privilégié, c'est le secteur mécanique. Je pense que la Golden est un produit industriel dont l'histoire est fort, fort intéressante, à la fois pour saisir les normes, les phénomènes de standardisation, les phénomènes de diffusion, de production, de commercialisation et d'usage. Donc la question, ou les points de discussion, que l'on n'aura malheureusement pas le temps de vraiment exhiber, c'est la question de l'échelle. À quelle échelle travaillons-nous avec des jeunes élèves? S'agit-il d'objets ou de produits? S'agit-il d'objets ou d'organes? Quel est le point de vue que l'on valorise? Quelles sont les périodes sur lesquelles on travaille? Quelles sont donc les sources et les documents? Mais en même temps, il y a une question qui me taraude. Quelle est la pertinence d'un regard rétrospectif par rapport à un regard prospectif avec des jeunes d'aujourd'hui? Je pense que la question des nanocoques transporteuses qui sont actuellement développées en pharmacologie ont sans doute autant d'intérêt qu'un regard rétrospectif. Donc je crois que la culture scientifique et technique, elle est peut-être dans ces doubles jeux du passé et du présent, dans la perspective de saisir l'essence même de la pensée technique, qui se combine bien évidemment avec la pensée scientifique, mais qui amène des solutions techniques complètement transformées et qui prévoient sans doute un autre système technique dans les 10 ans à venir. Je vous remercie.
Merci monsieur, c'était une parfaite conférence de conclusion de nos journées. Franchement, merci beaucoup. La méthode, les questions en effet qu'on se pose, de méthode pour les enseignants, et aussi les questions qu'on se pose constamment depuis des années sur la place de l'histoire des sciences et des techniques dans les manuels scolaires. Vous avez cité Nicole Hulin, qui est une amie Absolument, de la maison, qui oui. ne se déplace pas à Nicole, mais qui fait un travail phénoménal. Vous avez cité Jacomi, qui est venu chez nous,
Bien sûr.
Karlmann, qui est venu chez nous aussi. Donc vraiment, il y a énormément de choses dans votre conférence, d'une grande richesse. Et maintenant, il y a peut-être des questions dans la salle. Il y a des profs de techno, entre autres. Parce qu'en plus, Monsieur Lebaume va partir, ils ont un train là.
Nous avons un train. Oui.
Ils ont un train.
Mais ça n'empêche pas.
Ça ne pousse pas là. Mais bon, on est un petit peu pris par le.
Si j'ai bien compris, je suis un petit peu étonné par votre conclusion, qui est la négation de l'utilité de connaître l'histoire. Et bon, je voulais savoir si c'était une ironie ou si c'était le fond de votre pensée.
Ah, non, je n'ai pas dit ça. Je dis que interroger l'analyse rétrospective contraint à se poser aussi la question de l'analyse prospective. Mais vous faites bien de rectifier, parce que ou de poser la question pour que je ne sois pas trahi par les mots peut-être que j'ai utilisés ou la façon de les dire.
Je voulais juste dire que au collège, ils ont un petit peu d'enseignement de la technologie. Et le temps d'enseignement de l'histoire des techniques est très très court, il me semble. Il va peut-être se généraliser de la 6e à la 3e, chose qui n'est pas faite actuellement. Et les enfants ont l'habitude de parler d'histoire depuis l'école primaire. Et ça me semble intéressant quand même de donner des dates et des noms d'inventeurs.
Oui, mais je partage votre point de vue.
C'est un enseignement très très court.
Oui, mais
il va être difficile de lui donner autant de richesses que
non,
votre exposé.
En histoire, il y a longtemps que la question de l'histoire événementielle dans l'enseignement de l'histoire est réglée. Je pense qu'il faut prendre appui sur un certain nombre d'évolutions de l'enseignement pour ne pas recommettre ou redécouvrir les erreurs. Ce qui me semble important, c'est d'avoir des datations pas forcément très précises, puisque les enfants, par exemple, de collège, ont parfois du mal à situer le monde du plastique. C'est-à-dire à partir de quand il y a eu du plastique ou du contreplaqué, ça, ils ne savent pas bien. Or, sur la question des matériaux qui apparaît un peu centrale au collège, ou en tout cas un point important, je pense qu'il est plus pertinent de créer sur des périodes, avoir un espèce de catalogue d'objets nouveaux qui montrent l'existence même du contreplaqué. Par exemple, sur la question du contreplaqué, je prends cet exemple-là, je pense qu'il est impératif de le mettre en relation à la fois sur la forme des objets qui deviennent aérodynamiques et en même temps avec l'existence même des avions qui utilisent ce contreplaqué. La même chose sur les matières plastiques. Donc, avoir plutôt des périodes qui fixent des choses et qui sont des repères, plutôt que la bicyclette de Michaud en 1866, ou je ne sais pas, je veux dire, à un an près, on s'en moque. Et en plus, la question de la datation est toujours difficile dans la mesure où les brevets sont essentiellement des brevets européens et qu'on n'a pas été voir ailleurs. Mais en même temps, il est important, par exemple, de repérer des anomalies. Pourquoi la brouette a-t-elle été inventée 1000 ans avant en Chine plutôt qu'en Europe? Là, il y a des énigmes qui posent un certain nombre de questions sur l'évolution de la pensée. On pourrait aussi interroger les enfants ou les questionner ou les faire s'étonner sur le fait qu'on a mis tant de temps à réaliser un vélo avec ses deux roues l'une derrière l'autre, alors qu'on connaissait quand même la roue depuis fort longtemps. Donc il y a un certain nombre, je dirais. La datation en elle-même, pour moi, n'a pas de sens. En revanche, montrer des cohérences qui s'installent sur des moments particuliers me semble un exercice de datation plus important. Mais pour ne pas tomber dans le 1515, dont les élèves ne se souviennent plus qu'il s'agissait de Suisse et de Français et de François Ier.
Là, je rebondis sur ce que disait le collègue. En fait, au niveau technologie, c'est plus en fait pour marquer en fait des principes techniques qui avancent les uns derrière les autres. La date, à la rigueur, on n'en a rien à faire. C'est simplement en fait que chronologiquement, dans leur esprit, ils ont bien en fait un fil conducteur qui fait que d'une solution technique, on est passé à une autre solution technique. Et deuxième point, par rapport à l'intégration et l'aspect en fait sommatif. Donc, notamment en sixième, là où on commence à aborder donc cette partie du programme, on voit plus en fait l'objet comme une somme de fonctions techniques, un assemblage, plutôt que comme un principe d'intégration. Qui, pour le moment, je me suis pas encore posé cette question-là, mais ça mérite peut-être d'être posé. Au niveau sixième, je la sens un peu difficile à aborder avec des élèves qui n'ont pas encore vu justement ou qui n'ont pas encore perçu cette notion d'évolution de l'objet technique au fil du temps.
Oui, mais ils la vivent assez régulièrement lorsque le boîtier de leur téléphone portable a une fonction à la fois d'amplification et à la fois de protection. Donc je crois que cette question d'intégration, elle est fondamentale. Et par exemple, Yves-Claude Lequin, qui est historien des techniques à Belfort, pointe d'une façon relativement détaillée comment, dans l'évolution des voitures, on a intégré progressivement à la fois les marchepieds, à la fois les ailes, à la fois les phares, etc. Et on pourrait du coup imaginer plein d'autres solutions, plein d'autres activités scolaires qui sont de repérer non pas la juxtaposition, mais l'intégration des formes et des fonctions. Donc ça obligerait à repenser complètement l'activité et je pense que c'est plus pertinent aujourd'hui de repérer ces intégrations et d'avoir une démarche explicative. Pourquoi les essuie-glaces sont-ils intégrés dans la carrosserie ? S'il n'y avait pas une norme liée à la sécurité des piétons en particulier, on ne peut pas l'expliquer. Donc si on veut comprendre les techniques, on est obligé d'avoir un appareillage qui s'appelle les normes. Parce que les normes sont les documents qui fixent en fait l'évolution et les connaissances techniques. Et c'est là où je déplore un peu la difficulté de saisir des sources pour mener des activités, comme vous le soulignez à juste titre, sur 10 heures ou 12 heures, pour mener des activités, je dirais, profondes et qui marquent les enfants d'une façon définitive.
Un tour rapide au niveau des activités en technologie, au niveau notamment de la sixième, on rebondit très rapidement sur l'histoire du vélo.
Oui,
ça fait partie en fait des thèmes en fait complètement récurrents. Parce qu'effectivement, il y a le problème des sources et des moyens. C'est-à-dire sujet à traiter et effectivement, au niveau en fait des sources que l'on trouve, au niveau de la bicyclette, c'est un outil simple pour l'élève, mais aussi très facile pour l'enseignant, parce qu'on a énormément de documents là-dessus.
Non, mais il y a la question de faisabilité. Mais quand c'était les mêmes activités qui étaient proposées en 1967, en quatrième, je m'interroge sur la pertinence, en même temps que ce sont les mêmes activités qui sont proposées dans le Tavernier pour le cycle 3. Donc, je veux bien qu'on fabrique une génération de cyclistes, mais je pense que la perspective, c'est le développement durable et non plus l'intégration historique. Mais je pense profondément que, et je critique un peu ces activités, mais dans une perspective positive, je crois qu'effectivement, au plan national, ça mériterait qu'un groupe travaille pour la mise à disposition des documents susceptibles de permettre des activités. Et je ne pense pas que ce soit un travail grandiose, compte tenu effectivement du temps qui est imparti à cette approche-là. Alors, effectivement, les enseignants ne vont pas réinventer les pratiques. Donc, ils utilisent ce qui est disponible et ce qui est valorisé à la fois par l'institution et par les manuels.
On doit en trouver des brevets à l'Académie des sciences, bien sûr. Hein, des brevets aux archives de l'Académie des sciences. Au CNAM, on ne sait pas, il faut poser la question.
Si, il y en a.
Aux gens du CNAM, il y en a. Mais et puis aussi au ministère de la Défense, etc.
Mais enfin, la question, c'est de trouver des brevets qui représentent des lignées et qui soient accessibles à un public assez jeune.
C'est ça, oui.
Parce que il y en a quelques-uns dans la revue des arts et métiers, par exemple.
Voilà, c'est ça, la revue des arts et métiers.
Il y a quelques brevets qui sont publiés. Oui. Ça, c'est bien pour des enfants de troisième, mais c'est insaisissable, puisque la lecture d'un brevet du 18e est difficile dans l'explication.
Certainement, oui.
Donc, il y a une difficulté, à mon avis, qui freine cette perspective historique qui... fondamentalement, je suis convaincu que c'est utile, puisque l'éducation, c'est quand même un enracinement dans des générations, et je pense que ça y participe.
Est-ce qu'on travaille sur l'histoire des inventions ? Je ne parle pas des inventeurs, les inventeurs, ils ont le droit aussi d'exister, et puis l'histoire événementielle a le droit aussi d'exister. Comme vous le dites en parlant des historiettes, je suis d'accord avec vous là-dessus, il y a vraiment un problème aussi, la notion de précurseur, etc., dont on a parlé ici souvent en histoire des sciences. Je pense que Laurent y est sensible aussi. Qu'est-ce que ça peut être dangereux pour l'histoire des sciences de parler toujours de cette notion de précurseur. Mais l'histoire des inventions, c'est un sujet drôlement intéressant aussi.
Oui, mais il y a des documents là qui sont disponibles, en particulier sur des séries télévisées qui ont été faites il y a une dizaine d'années, qui mériteraient d'être peut-être réactualisées ou qui pourraient servir de documents de base pour des supports pédagogiques, tout en sachant quand même que l'histoire des inventions est parfois parcourue par la tendance un peu à l'anecdote, en valorisant l'illumination géniale. Hein, par exemple, l'histoire de l'invention du velcro, qui, selon certains auteurs, serait liée à la robe de l'inventeur qui se serait La fermeture à glissière qui n'aurait pas fonctionné, et comme le matin en se promenant, il s'était pris des poux dans ses chaussettes, ah, oh, la lumière fut, et il s'est dit bon. Donc il y a quand même un certain nombre dans ce qui est disponible en matière d'histoire des inventions, par exemple, dans l'histoire des inventions qui ont transformé le monde, dans tous les documents. Ce sont les petites inventions, et là c'est la question de l'échelle, c'est-à-dire doit-on travailler avec les élèves sur l'invention du CERN, par exemple, enfin, des gros ensembles, ou bien des objets à leur échelle et qui deviennent des histoires anecdotiques. Mais je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, et ce rapport d'échelle est important, tout en conservant à l'esprit le système. Sur l'histoire de la bicyclette, je critique un peu parce que l'histoire de la bicyclette est décontextualisée. C'est-à-dire que le système de la route, la normalisation et la réglementation qui l'accompagne ne sont même pas évoquées. Donc on a des objets qui sont asociaux. Or, les techniques, fondamentalement, impliquent un cadre juridique, une normalisation. Et oui, mais c'est ça qu'il est important de faire saisir aux enfants. Non, mais dans tout programme, c'est un travail sous contrainte. C'est-à-dire qu'avec 10 heures, avec 6 heures, faut choisir les activités les plus pertinentes. Et donc gommer celles qui sont plus anecdotiques. Mais bon, ça c'est un travail, je dirais, d'experts. Et le groupe d'experts, sans doute, pense à toutes ces questions-là.
Merci beaucoup. Merci à voilà. Vous tous. Merci à nos conférenciers. Demain, vous allez au CRDP. C'est à quelle heure, Mario ? Moi, à CRDP à 9h. Donc, on se revoit vendredi midi pour la conférence d'Ahmed Djebbar sur les sciences arabes. Et j'avais proposé qu'après la conférence, vous alliez visiter l'exposition sur la physique, si vous le voulez. Et là, si vous avez le temps, si c'est ouvert, je vois pas d'inconvénient, hein, parce que vous ayez voir l'exposition sur la physique.